Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Du monde 2026, les Léopards de la RDC jouent aujourd'hui le match du barrage contre les Reggae Boys de Jamaïque. Une victoire pourra leur ouvrir la voie à cette grand maître de football 52 ans après. Dans ce journal, les atouts et faiblesses des deux équipes, mais aussi ce que les deux nations partagent en commun au-delà du football. Vous suivrez également les attentes des Congolais qui ne jurent que par la victoire des Léopards. Alors que le mois de mars, mois de femmes tire sa révérence, la première ministre met l'accent sur l'inclusion du genre dans la politique de la sécurité nationale. Judith Suminon l'a dit hier à Kinshasa, la clôture du forum sur l'intégration des femmes au sein de l'armée et autres services de sécurité. Le retrait de combattants des FCM-23 soutenu par le Rwanda de plusieurs villages du territoire de Lubero, Nord Kivu, et le début des opérations militaires des FARDC pour contraindre les FDLR au cantonnement. Il en a été question hier dans Dialogue entre Congolais. Dans Dès du jour, nous vous proposons des réactions des intervenants. Madame, Monsieur, bonjour. Les Léopards de la RDC vont-ils dévorer les maîtres du reggae, ou mieux les Reggae Boys de la Jamaïque ce soir à 22h, heure de Kinshasa? En tout cas, les deux formations sportives jouent leur destin ce mardi 31 mars dans le cadre de la finale des barrages intercontinentaux qualificatifs pour la Coupe du Monde de football 2026. Les fauves congolais n'auront pas la tâche facile, bien que favoris sur papier. Mais quels sont les points forts et faibles de ces deux équipes? Réponse dans cet élément proposé par l'équipe de sport de Radio Kapi est rendu ici par Kanish Mukongo.
Si la République démocratique du Congo est favorite sur papier côté sportif avec un style différent de celui de la Jamaïque, mais ces deux nations semblent être proches sur le plan culturel, un élément mental très important. Au-delà de ses nombreuses ressources minières, de la richesse de son sol, la RDC est également reconnue comme une terre de musique, notamment grâce à la rumba. À ce rythme est venu s'ajouter le ndombolo, consolidant davantage la richesse musicale du pays. De Wendo Kolosoy à Grand Calais, en passant par Rochereau et bien d'autres, la RDC s'impose comme un véritable fer de lance de la musique africaine. De l'autre côté, la Jamaïque s'est fait connaître à travers le monde grâce à sa musique, en particulier le reggae, popularisé par le légendaire Bob Marley. Sur le plan sportif, les Jamaïcains privilégient un jeu offensif s'appuyant sur les latéraux rapides, puissants et techniques. La RDC, quant à elle, adopte une approche plus stratégique, laisser l'adversaire jouer pour mieux le contrôler en misant sur la vitesse de ses attaquants. L'objectif est clair pour les deux camps, s'imposer et décrocher une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026.
Les regards des Congolais sont donc tournés vers la Jamaïque, et certains se sont d'ailleurs exprimés à ce sujet. La majorité de ses supporters, vous allez l'entendre, ne jure que par la qualification de la République démocratique du Congo. On écoute les uns et les autres au micro de Pepe Lisungi de la radio communautaire Beko FM basée à Kisangani.
Nous avons vu les débarrages au niveau de l'Afrique. L'équipe avait très bien joué et je peux même dire que nous allons remporter la rencontre au score des 3-0.
On a toutes les potentialités, toutes les qualités pour arriver à gagner ce match. Et moi, j'ai pronostiqué par un score de 2-1.
Bon, je suis congolaise. Je pense que non, on va gagner par la grâce de Dieu. Au moins 2-1. La RDC, mon pays.
Pour le rencontre, je suis à 100% que nous serons qualifiés de l'équipe. Va satisfaire tous les Congolais.
Honnêtement, c'est un rêve d'abord d'y aller à la Coupe du Monde. Et aussi, j'ai fait un rêve qu'on a gagné 1-0 avec un maillot bleu. La victoire est rassurée.
Bon, moi, personnellement, je soutiens à 100% la RDC, mon équipe Léopard. Et j'ai confiance à mon équipe. On va gagner. Allons de l'avant les Léopards. Je vous soutiens. Wow, Fimbu na Fimbu.
Le mois de mars, mois consacré à la femme, touche à sa fin avec cet appel de la première ministre Judith Suminwa autour l'inclusion et l'intégration du genre dans la politique de la sécurité nationale. Elle s'est exprimée hier lundi à Kinshasa à la clôture du forum des femmes consacré justement à l'intégration des femmes au sein des FARDC, de la police nationale congolaise, de l'ANR, l'agence nationale des renseignements, de la DGM, la direction générale de migration et du conseil national de sécurité. Cette rencontre a été organisée par le groupe consultatif des femmes pour la réforme du secteur de sécurité sécurité en collaboration avec le ministère du genre, avec l'appui technique, logistique et financier de la MONUSCO. Elle a réuni des femmes issues de la société civile, des organisations féminines de défense des droits des femmes, ainsi que la ministre du genre, famille et enfants, Micheline Mbaye. Suivez les propos de la première ministre, chef du gouvernement, dans cet extrait choisi par Benjamin Moudoumbi.
Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est guidé par la ferme conviction que sans inclusion et intégration du genre dans la politique de sécurité nationale, il ne serait en aucun cas possible de parler de politique de sécurité crédible. De même, sans cette politique de sécurité inclusive et représentative, il est éhonté de parler de développement durable. Des esprits conservatoires me demanderont le pourquoi de l'intégration de la femme dans la future politique de sécurité nationale. Ma réponse est ferme et intransigeante. Les femmes ne sont pas de simples bénéficiaires de la sécurité. Elles en sont des actrices de première ligne, tant dans la prévention, l'alerte communautaire, la cohésion sociale, la médiation, la résilience que la reconstruction. Je ne peux clore mon propos sans saluer l'engagement des femmes congolaises dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.
La première ministre Judith Suminwa est sous mois dans sa fin au moment où des centaines de femmes chargées de l'assainissement de routes récemment asphaltées à Mbushima et versent des larmes. Ces femmes déplorent leurs conditions de travail et affirment en effet n'avoir reçu ni salaire ni prime depuis près de 9 mois après ces durs labeurs. Les structures d'assainissement et la mairie, quant à elles, se renvoient la responsabilité de leur paiement. Et Standalafina a essayé de nous faire comprendre cette affaire. Suivez son reportage.
Chaque jour à 4h du matin, Madame Ngalula, une femme de troisième âge, quitte le quartier Mulamba Wampoyi avec son balai en main, parcourt plus de 6 kilomètres jusqu'à la route du rectorat de l'université de Mbujimayi. Comme elle, ses collègues affirment n'avoir reçu aucune rémunération depuis le début de leur engagement.
Nous avons travaillé depuis bientôt 8 ans. Nous balayons sur les boulevards. On fait l'appel nominal autour de 11h. On ne nous donne rien.
Quelques-unes affirment avoir été sensibilisées par le maire.
Allez sensibiliser les jeunes femmes, les femmes de troisième âge, c'est les mères qui a dit que nous verrons ce que nous allons leur donner.
C'est Lé Mutombo, responsable de la fondation SAF Sélé, qui a recruté ces balayeuses, soutient que les fonds destinés à leur paiement devraient provenir de la mairie.
Le maire avait dit que donc voilà, ils seront payés. Pas le maire qui nous avait appelé, il faut maintenant que la mairie nous paye.
Quelle est la hauteur de leur paiement?
Non, parce que c'est l'autorité maintenant qui va fixer.
De son côté, le maire de la ville rejette toute responsabilité. Entre promesses et renvoi des responsabilités, ces femmes continuent à balayer les avenues de Mbujimayi dans l'espoir que leurs revendications soient enfin entendues. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Mais malgré ces couacs, des recherches sont toujours menées pour alléger la souffrance de la femme, cas de l'organisation Baluba Kitchek. Cette structure de vérification des faits, en collaboration avec l'ambassade de la Belgique en RDC, vient d'organiser à Kinshasa une conférence autour du thème « Culture congolaise et féminisme, vers les droits garantis et une autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles ». Pour ce faire, chercheurs, journalistes, entrepreneurs, acteurs culturels et membres de la société civile ayant croisé leur regard pour dépasser les idées reçues en cette fin du mois de la femme. Suivi des détails avec J.R. Kabamba.
Au cœur des échanges, la nécessité de relire la culture congolaise à la lumière des droits fondamentaux. Le féminisme n'est pas une guerre des sexes, mais une prise de conscience collective, a déclaré Madame Ange Kasongo, directrice de Baluba Kitchek, dans son monde des circonstances.
Culture congolaise et féminisme. Une thématique qui peut parfois susciter des débats, voire des résistances, ancrée beaucoup plus dans nos traditions et nos coutumes. Le féminisme, ce n'est pas la guerre du sexe. Pour nous, le féminisme, ce n'est pas régner nos valeurs. C'est reconnaître que la force d'une nation se mesure à la force de toutes ses composantes. Que tant que la moitié de notre population, nos mères, nos sœurs, nos filles, est freinée, sous-représentée ou victime de discrimination, notre Congo ne pourra jamais atteindre son plein potentiel.
Selon Madame Annie Maudy, féministe congolaise et activiste des droits des femmes, cette rencontre visait à sensibiliser et à promouvoir les pratiques positives de la culture, tout en refusant que la culture soit utilisée pour justifier l'injustice sociale et les violences faites aux femmes.
Ce que nous refusons, c'est que la culture soit utilisée comme un outil pour justifier les inégalités contre les femmes et les filles.
Notons que cette initiative de Baluba Kitchek rappelle que la culture, loin d'être un frein, peut devenir un véritable levier pour garantir les droits des femmes et bâtir une société plus équitable.
Parlons en sécurité à présent, au moins 2 morts, 10 civils pris en otage et plusieurs bien pillés. Bilan d'une attaque de rebelles des ADF la nuit dernière dans les localités de Makoko, Muchenga et leurs environs. C'est à une dizaine de kilomètres de Mambasa Centre en Ituri. À cela, il faut aussi ajouter des milliers d'habitants qui ont fui les zones attaquées, ainsi que les villages situés le long de la route nationale numéro 4, notamment vers Mambasa et Bahaha. Face donc à l'intensification des violences, les structures citoyennes locales demandent au gouvernement d'accorder une attention particulière à ce groupe armé, au même titre que M23. Isaac Raymond.
La dernière attaque a été signalée lundi vers 5h du matin au village de Makoko, situé à 11 km de Mambasa, dans une zone forestière proche de la route nationale numéro 4. Selon la société civile locale, les assaillants ont ouvert le feu sur des habitants surpris dans leur sommeil. Au moins 2 corps ont été retrouvés. Plusieurs personnes ont été prises en otage tandis que d'autres ont été blessées, laissant des traces de sang sur leur passage. La veille, un autre groupe des ADF avait fait incursion dans les villages de Muchanga ainsi qu'à Khartoum, où plusieurs biens ont été emportés. Ces attaques ont provoqué déplacement de la population dans une dizaine de localités, y compris celles ciblées et d'autres situées le long de la RN4. Dans la zone, l'accès aux champs est devenu difficile, voire impossible pour certains habitants. Le trafic sur la route nationale numéro 4 reste également très timide. Le conseil provincial de la jeunesse à Ituri indique que les ADF ont déjà fait plusieurs victimes dans les territoires de Djougou et Mambasa, malgré les efforts des FARDC. Son président, Deogracias Bungamuzi.
Depuis trop longtemps, la population meurt. Nous interpellons directement le gouvernement central. La menace des ADF ne peut être reléguée au second plan. Ce phénomène doit être traité comme une urgence nationale et inscrit clairement dans les priorités internationales même.
Signalons que l'intervention des FARDC ce matin a permis de limiter les dégâts dans la zone. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Sécurité encore, les FARDC ont lancé dimanche une opération de traque des rebelles rwandais des FDLR encore présents sur le territoire congolais. Le coup d'envoi a été donné à Kisangani dans la province de Latchopo par le général Jacques Ichaligonza, chef d'état-major adjoint chargé des opérations et de renseignement. Objectif, obtenir la reddition de ces éléments des FDLR avec dépôt d'armes et rapatriement vers le Rwanda dans le cadre de l'accord de Washington avec des garanties de sécurité en suivi international. Mais sur terrain, cette opération s'annonce déjà complexe avec plusieurs défis à relever. Explication avec Martial Papimukeba.
L'opération prévoit que la ville de Kisangani serve principalement de site de cantonnement pour les combattants FDLR rendus ou capturés avant les rapatriements. C'est également là que 3 bataillons des FARDC ont été formés pour cette mission, dont un spécialisé en combat des jungles et équipé dans le cadre de la coopération militaire avec la France. Ils doivent être déployés au Nord Kivu, mais les défis sont importants. Selon des sources militaires, les principaux foyers présumés des FDLR, notamment à Rutshuru ainsi que dans certaines parties des Nyiragongo et des Masisi, restent sous occupation de l'AFC M23. L'accès à ces zones constitue donc un obstacle majeur et le retrait préalable de l'AFC M23 et des troupes rwandaises est jugé nécessaire pour permettre le déploiement des FARDC, précisent ces sources. Autre défi, l'appui en renseignement et en logistique. Des sources sécuritaires évoquent un soutien à tandis de la communauté internationale, notamment de l'ONU, y compris pour le rapatriement des combattants FDLR. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Autre chose, la journée mondiale des troubles bipolaires a vécu, c'était hier lundi 30 mars. Un spécialiste psycho-neurologue a profité de cette occasion pour donner quelques conseils. Dr Philippe Talaja recommande l'abstinence de toute substance psychoactive, notamment l'alcool, le tabac et d'autres produits similaires pour prévenir des troubles psychosomatiques. Ce médecin appelle également à une prise en charge rapide de toute personne présentant un changement brutal de comportement afin d'augmenter les chances de guérison. Dr Philippe Talaja, au téléphone de Blaise Ndongala.
Le trouble bipolaire est une maladie qui touche la régulation et l'équilibre de l'humeur. Les personnes qui en souffrent sont sujettes à des fluctuations d'humeur excessives, voire extrêmes, variant entre l'euphorie, état exagéré de bien-être intérieur, caractérisé par une perte d'intérêt et un sentiment de satisfaction et la tristesse. Tout le monde peut développer les troubles bipolaires, quel que soit l'âge, le sexe, la race, mais la grande particularité n'est que c'est une pathologie qui se remarque beaucoup plus avec un pic à l'adolescence de 15 à 19 ans, l'âge moyen 17 à 29 ans. Okay, à cette période de la vie, c'est l'âge de la prématurité où quelqu'un découvre le monde. À cet âge, il y en a qui peuvent même commencer à prendre même des substances psychoactives. Il serait important dès que toute personne qui identifie un changement de comportement sans motif, donc quelqu'un qui était bien, il change un comportement psychique, il faut l'orienter vite dans les centres spécialisés psychiatriques pour une meilleure prise en charge.
Notez que cette année, cette journée est placée sous le thème « Ensemble comprendre le trouble bipolaire ».
Actualité internationale.
Une attaque contre une mine d'or au Soudan du Sud a fait au moins 73 morts et 25 blessés le week-end, selon le vice-président du pays. L'attaque visait la zone minière de Kor Kaltan, située à environ 70 km au sud-ouest de la capitale Juba. Au moins 73 mineurs locaux ont tragiquement perdu la vie et 25 autres ont été grièvement blessés, a déclaré le vice-président James Owani Iga dans un communiqué. Nous devons fournir des soins médicaux d'urgence et évacuer les 25 blessés. Une source sécuritaire souhaitant garder l'anonymat a confirmé ce bilan à l'AFP, tandis qu'une source diplomatique a estimé le nombre de morts entre 75 et 86.
L'invité.
Les combattants de la FC-123 soutenus par le Rwanda se sont retirés de plusieurs villages du territoire de Lubero, Nord Kivu, la nuit de lundi à mardi 24 mars. Pendant ce temps, les FARDC ont annoncé dimanche le début des opérations militaires pour contraindre les éléments des FDLR au cantonnement. Ces questions ont fait l'objet des échanges entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. On les écoute ici au micro de Guimaté.
Juvenal Munubo Mumbi, vous êtes avocat, cadre de l'Union sacrée de la Nation, vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est et de la RDC. Comment vous expliquez ces deux faits qui interviennent presque au même moment, le retrait des combattants de l'AFC-M23 de certaines localités du Grand Nord du Nord Kivu et l'annonce par la FARDC des opérations militaires contre les FDLR?
C'est dans la suite de la déclaration de Washington. Il y a une déclaration du 18 mars 2026 parce que les partis se sont rencontrés, c'est-à-dire les délégués de la RDC et du Rwanda, pour évaluer la mise en œuvre des accords de Washington. Et puis, il y a eu au moins trois points dans cette déclaration. C'était une courte déclaration, un communiqué final, si on peut le dire comme ça. Il y a d'abord la désescalade, c'est-à-dire il faut désamorcer la crise, baisser les tensions. Et puis, le désengagement et lever des mesures de défense du Rwanda. Et puis, il y a la lutte contre les FDLR. Raison pour laquelle, s'agissant du désengagement, il y a ces mouvements qu'on observe. Et par rapport à la lutte contre les FDLR, il y a cet engagement pris par le gouvernement congolais de lutter contre les FDLR.
Peut-on affirmer que c'est le début effectif de l'application de l'accord de Washington?
Il faut quand même admettre qu'il y a une pression internationale. C'est une pression de Washington, hein, des États-Unis, notamment sur le Rwanda et la M23. Et c'est dans ce sens-là. Mais l'objectif de la pression, ce n'est pas de la pression pour qu'ils se retirent et que tout s'arrête par là, quoi. Moi, je vois beaucoup plus une pression pour permettre de revenir sur la table des négociations et de conclure, faire la paix définitive. Parce que c'est différemment interprété. Il y a ceux qui pensent que, voilà, les Américains exercent la pression pour que le Rwandais se retire, pour que l'AM23 qui mettent fin à leur lutte, et à la fin ils ne pensent pas qu'on peut conclure par un accord de paix. Moi, je crois que tout ça, c'est un prélude effectivement d'un atterrissage en douceur du processus de paix.
Merci. Patient Bachombe Matabishi, vous êtes membre de la société civile, vous êtes coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement du code RDC. Et c'est quoi votre compréhension du retrait de l'AFCM23 de certaines localités du Nord Kivu et aussi cette annonce par les FARDC de la traque contre l'FDLR?
La manière dont ça se fait, ça inquiète plus d'un. Des gens qui ont nié leur présence, mais qui commencent à faire des mouvements nocturnes. Aucun mécanisme précis n'a été mis en place. Aucune vérification n'a été mise en place. Que ce soit la MONUSCO, que ce soit la communauté internationale, même le médiateur, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, à l'heure où nous tenons cette émission, combien de militaires rwandais ont franchi la frontière. Et donc ça doit nous interpeller.
Et surtout que ça semble avoir pris des cours tout le monde.
Mais évidemment, ça doit nous interpeller et nous voulons alerter le médiateur, le gouvernement congolais et même les partenaires internationaux que cette question doit être prise au sérieux. J'aurais voulu quand même que la MONUSCO, ça devrait même être une tripartite entre l'État congolais, la MONUSCO et le médiateur américain pour dire du jour le jour ou par semaine combien de militaires ont franchi. Le risque est sur lequel? Le risque c'est que ces militaires rwandais peuvent être dilués dans la population.
Merci Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Nord Kivu. Et qu'à vous inspire ces retraits de l'FCM 23 et les opérations annoncées contre l'FDLR?
Je pense que c'est naïf d'une certaine façon de célébrer avant de tout comprendre, dans le sens où est-ce qu'il s'agit bien des pressions américaines ou pas. Après aussi, je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que le M23, c'est une entité qui, dans une certaine mesure, s'est reconstruit sa propre agence, sa propre capacité de subsister en dehors du soutien et de l'accompagnement du Rwanda.
Et donc vous voulez dire que les troupes du M23 pourraient tenir, pourraient résister, même si l'armée rwandaise quittait la RDC aujourd'hui?
Dans une certaine mesure, lorsqu'on regarde la trajectoire et l'historique récente sur quand est-ce que nous commençons à documenter la présence physique des troupes, parce que lorsqu'on parle aussi des mécanismes de défense du Rwanda, il ne s'agit pas que des troupes présentes sur le sol du Congo. La guerre, c'est aussi l'échange de l'intelligence, les informations, c'est aussi l'appui en termes de technologies aujourd'hui. Toute la zone orientale du Congo, 80 kilomètres à l'intérieur, je pense que c'est une zone qui nous échappe, dans le sens où elle est brouillée par la technologie rwandaise.
Dialogue entre Congolais est à suivre sur www.radiookapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal préparé par Lievin Mwinga et mis en onde par Jean-Claude Nsiala. Excellente journée.